ce fut comme un vent de folie qui souffla plus particulièrement sur les femmes. Beaucoup d'entre elles étaient à l'état de révolte, inconsolables d'avoir perdu le surcroît d'importance acquis durant les troubles civils à celle-là même qui ne se mêlait point à la politique. La force des choses avait alors émancipé les femmes dans le désordre général. Et pendant que les hommes étaient à se battre, elles avaient perdu l'habitude de rester dans l'ombre et d'obéir, ou de n'être que les premiers objets de luxe de leur maison. Louis XIV avait entrepris de les ramener à un rôle décoratif ou utilitaire. C'est à peu près comme si nous demandions aujourd'hui à nos filles, si libres et si mêlées au mouvement général, de revenir tout d'un coup à l'effacement et aux mille contraintes de notre propre jeunesse. Elles se cabreraient. En 1666, la plupart des clientes de la nécromancienne sollicitaient avant tout un secret pour secouer le joug retombé sur leurs épaules. Le mari était l'incarnation naturelle de ce joug. Aussi était-ce à lui que les révoltées s'en prenaient d'habitude. Elle s'adressait à une devineresse. La première consultation était presque toujours innocente. La devineresse conseillait des neuvaines au bon Saint-Denis, très secourable aux femmes malheureuses en ménage ou à l'infatigable Saint-Antoine de Padoue. Elle réservait pour plus tard, ne les donnant qu'à bon escient, des « poutres » dont le secret avait été apporté d'Italie et que l'on venait chercher à Paris de toute la province et des pays étrangers. On sait par ces documents contemporains qu'il y entrait de l'arsenic et que tant de personnes s'accusaient en confession d'avoir « empoisonné quelqu'un » que le clergé de Notre-Dame finit par avertir la justice. 1673, les pénitents, et surtout les pénitentes, disaient-ils toujours vrai? L'imagination populaire est si prompte à prendre le galop dès qu'il s'agit d'empoisonnement que l'on peut se demander si une partie de ces malheureuses n'étaient pas plutôt des hystériques et des hallucinées. Il est probable qu'on l'ignorera toujours. Les médecins d'alors étaient les médecins de Molière et la chimie n'existait pas. Le mari, adouci ou supprimé, les femmes demandaient à l'amour de remettre des émotions dans leur existence rétrécie et affadie. La tâche de la nécromancienne consistait alors à intéresser Dieu ou le diable aux peines de cœur de sa cliente et à la faire aimer, bon gré mal gré, de l'homme qu'elle désignait. On commençait par les neuvaines, on finissait par la messe noire, avec ses rites obscènes ou par la messe sanglante, pour laquelle on égorgeait un petit enfant. Toutes les formes de conjuration avaient place dans l'entre-deux. Tous les charmes, tous les talismans et plusieurs sortes de poudre, qui n'étaient pas toujours inoffensives. Les consultations se payaient suivant le rang et la fortune des clientes. À défaut d'argent, on donnait un bijou ou bien l'on signait un billet, ressource, dont il n'est pas besoin de signaler l'imprudence. L'année où mourut Anne d'Autriche, l'une des devineresses les mieux achalandées de la capitale était la femme d'un bonnetier appelé Antoine Monvoisin, dont la boutique était située sur le pont Marie, le même qui, aujourd'hui encore, relie la rive droite de la Seine avec l'île Saint-Louis. Le pont Marie, comme presque tous ceux du Paris d'alors, portait une double rangée de maisons à boutiques qui en faisaient une rue très animée. Les affaires de mon voisin n'avaient pourtant pas prospéré. Il avait essayé plusieurs commerces, sans réussir dans aucun. Il avait été mercier, joaillier, et surtout, il avait perdu ses boutiques. Suivant l'expression de sa femme, Catherine, mon voisin, familièrement, la voisin. C'est sous ce dernier nom qu'elle est devenue célèbre dans les annales du crime. La voisin, diseuse de bonne aventure, est la même que la voisin, l'empoisonneuse. Au temps du magasin de bonneterie, elle n'avait pas encore éveillé l'attention de la justice. Malgré son installation mal sûre du pont Marie, qui l'obligeait à avoir double domicile ou à donner ses rendez-vous chez des compères, elle gagnait énormément d'argent. Le prix de ses consultations variait d'une pièce de monnaie à plusieurs milliers de livres, ou d'une vieille nippe à un collier de pierres précieuses. Et elle faisait encore des bénéfices sur les acolytes des deux sexes qui l'assistaient dans ses œuvres scélérates. On sait par elle-même qu'elle s'était séparée de bien d'avec son mari, toujours malheureux en affaires. Malgré cette précaution, l'argent lui fondait entre les doigts. Il est vrai qu'elle avait des charges, enfants à élever et parents à soutenir. Elle disait « J'ai 10 personnes à nourrir !» Mais elle était économe pour les autres. La voisin donnait un écu par semaine à sa mère et élevait sa fille en très petite bourgeoisie. C'était elle qui dépensait follement, en compagnie de misérables de son espèce. La position de Marie d'empoisonneuse semble avoir été précaire. Antoine, mon voisin, était au courant de l'industrie de sa femme et sa conscience ne lui interdisait pas d'en profiter pour se donner du bien-être. Sa conscience lui permettait aussi de s'approprier l'argent que sa femme lui confiait pour faire exécuter les commandes de Nevennes. Il était libertin, tout comme les Vardes et les Guiches, et convaincu que les Nevennes ne servaient absolument à rien. Quant à aller plus loin et à mettre franchement la main à la pâte, serviteur, sa prudence lui réussit. Il ne fut jamais inquiété, mais elle l'exposait tous les jours de sa vie à être empoisonné dans son potage, car la voisin ne pouvait souffrir ce poltron. Elle aurait voulu le remplacer par un véritable associé, et c'était entre eux un perpétuel assaut de ruses. Le bonhomme Antoine aurait certainement fini, malgré tout, par y passer, s'il n'avait eu l'idée ingénieuse de se lier avec un bourreau, auquel il confia sa situation. Il fut convenu entre eux que si mon voisin mourait avant sa femme, le bourreau parlerait et provoquerait l'ouverture du corps. La voisin prit peur. Elle essaya de faire empoisonner son mari en voyage, n'y réussit point et finalement le garda. Elle avait bénéficié, comme toute la corporation, des espérances éveillées chez le nombre de jolies femmes de l'aristocratie par la disparition de la reine-mère. Anne d'Autriche avait si mal pris les premiers écarts de son fils que les aspirantes à la succession de la Vallière en avaient conservé une certaine discrétion. Lorsqu'on n'eut plus à craindre les rebuffades de la vieille reine, les passions se déchaînèrent et un essaim de jeunes ambitieuses s'adressèrent aux devineresses en vogue pour parvenir aux bonnes grâces du roi. Les plus hardis demandaient en même temps «
Quelque chose contre Madame de la Vallière ?»
Parmi ces jeunes femmes se trouvait la marquise de Montespan, qui n'aimait ni son mari, ni le roi, mais qui était harcelée par ses créanciers, consciente de sa valeur et déterminée à être
« maîtresse reconnue ».
Puisqu'aussi bien, c'était une position classée et admise. Elle était
« belle comme le jour »,
dit Saint-Simon, sans être
« parfaitement agréable ».
Le correctif est de Madame de Lafayette. Elle avait tout l'esprit que l'on peut avoir et délicieux de singularité et de politesse. Malgré tant d'éclat, le roi l'évitait plutôt. Et elle en était réduite à amuser Marie-Thérèse, qui la voyait volontiers, ayant une confiance absolue en sa vertu. La reine s'était laissée prendre aux pieuses austérités de la jeune marquise, à ses fréquentes communions, à tout un appareil de pratique et d'observance qui partait du reste d'un sentiment sincère et dont Madame de Montespan conserva toujours le plus qu'elle put à travers les scandales de son existence. Ainsi entendu, la religion n'empêche pas d'aller chez la sorcière. Elle y mènerait plutôt, en donnant à l'âme perverse,
la vague conscience du plus outre.
Madame de Montespan devint l'une des meilleures pratiques de la voisine. De celle qui ne regardait pas aux frais ni à la décence des cérémonies, pourvu que le diable la fît aimer de Louis XIV. À la différence de ses rivales, elle en eut pour son argent. Elle s'était mise en campagne dans le courant de 1666. Les mémoires de Mademoiselle, très abondants sur ce sujet, et confirmés, par ailleurs, nous apprennent qu'au printemps de 1667, Madame de Montespan avait supplanté la Vallière. Il n'y avait plus que la jeune reine à en douter. Moins d'un an après, la voisine eut l'imprudence de faire du bruit parce que deux de ses auxiliaires n'en avaient pas agi honnêtement avec elle. L'un d'eux s'appelait Mariette et était prêtre, attaché à l'église de Saint-Séverin. La voisine s'en servait pour les sacrilèges. L'autre, le sage, était une espèce d'homme à tout faire, qui ne reculait devant aucune abomination. La voisine les accusait de lui avoir soufflé l'une de ses clientes, Madame de Montespan, ce qui était vrai, mais inutile, à crier sur les toits. Leur démêlé,
ayant fait quelques éclats,
rapporte la Reynie, et le roi, ayant eu avis que ces gens faisaient des impiétés et des sacrilèges, et les ayant fait observer, Mariette et le sage furent arrêtés. Leurs interrogatoires nous ont été conservés. En voici le passage essentiel. Mariette avoua sans difficulté avoir
dit des évangiles
sur la tête de diverses personnes, forme de conjuration relativement innocente. On lui demanda les noms.
Sur la tête de la dame de Bougie, sur Madame de Montespan, à la Duverger, à Madame de Rafteau, toutes lesquelles personnes le sage a menées chez lui.
Mise au courant, Louis XIV ordonna de poursuivre. Saint-Germain, 16 août 1668.
Je vous écris cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous ayez à faire conduire Lady Mariette et Dubuisson de mon château au Châtelet de la ville de Paris à l'effet de l'instruction de leur procès.
On peut tenir pour certain que le roi ne perdit pas l'enquête de vue. Louis XIV était friand de détails policiers. Et cette affaire-là
le toucher de trop près pour l'oublier. L'instruction commencée, il se découvrit que Mariette était cousin germain de la femme d'un juge. Le Châtelet estima qu'il y allait de l'honneur de la magistrature d'étouffer l'affaire. Il y apporta tous ses soins et rencontra évidemment d'utiles approbations parmi les puissants de ce monde, car la suite de l'histoire laisse entrevoir de nombreuses irrégularités. On y distingue que la voisin, revenu à son bon sens, seconda le Châtelet en faisant agir de haute protection, et que Mariette et le sage, après une période d'épreuves et de difficultés, reprirent en paix leur métier louche. Ils figurèrent l'un et l'autre au procès monstre de 1680, où ils furent de ceux qui se répandirent en détail sur les pratiques abominables auxquelles Madame de Montespan aurait été mêlée pendant de longues années. Qu'ils en aient ajouté ou non, la chose n'importe pas ici, car c'est le seul Louis XIV qui nous intéresse. Ce n'est pas Madame de Montespan. La lettre citée plus haut prouve, et c'est tout ce qu'il nous faut, que le roi avait su, dès 1668, que sa nouvelle maîtresse avait des accointances dans le monde de la criminalité, qu'elle s'abouchait avec des individus ignobles, subissait leurs contacts dégradants et s'adonnait, en compagnie, à des rites sacrilèges. Ce monarque, qui passe pour si délicat en matière de correction, s'en montra singulièrement peu ému. Entouré de libertins sans préjugés, à demi-libertin lui-même, il ressemblait si peu, dans sa jeunesse, au Louis XIV de la fin du règne et des mémoires de Saint-Simon. Emperruqué au moral comme au physique, qu'il semble voir un autre homme. La correction, les bienséances, comme il en faisait bon marché, quand la passion était en jeu. Et comme il est plus vivant ainsi, plus naturel que le personnage compassé des portraits officiels de Versailles. Louis XIV est décidément un méconnu.